Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Varin, l'un des cofondateurs de Recommerce, le pionnier du rachat, du reconditionnement, de la location et de la revente de smartphones reconditionnés depuis 2009.
Bonjour.
C'est beau ça. Salut, je suis absolument ravie de te recevoir dans l'Empreinte. Bon, présente-moi, puisque tu as cofondé Recommerce, déjà comment t'es venue l'idée ?
Alors, l'idée de Recommerce est venue déjà du constat du gaspillage d'équipements télécom, de se dire comment c'est possible que des produits qui sont pensés pour durer 10 ans finissent dans un tiroir au bout de 2-3 ans. Donc moi, quand j'étais étudiant à l'Institut National des Mines Télécom, Institut National des Télécommunications, parce que ça a changé de nom, à Ivry, j'étais étudiant et à ce moment-là, j'ai participé à un concours, un challenge de création d'entreprise avec comme vision de créer une plateforme pour recycler, réparer, reconditionner, revendre. Enfin, à cette époque-là, on ne parlait pas de reconditionner, mais pour recycler des équipements télécom. En disant, dans cette école de télécom, on parle beaucoup de techno, mais au final, qu'est-ce que deviennent les vieux ordinateurs ? C'était en 2001, donc il y avait surtout des ordinateurs qui étaient renouvelés, et des équipements télécom, des équipements réseau. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Donc, j'ai créé une sorte de business plan à cette époque, avec cette réflexion. Suite à ça, j'ai créé ma société de conseil en sortie d'école, en 2005, pour réfléchir à comment aider à monter des filières de recyclage et de réemploi. Et dans cette expérience de consultant avec un cabinet qui représentait à peu près 7 à 8 consultants, qui s'appelait Tic et Tic, j'ai retrouvé mon associé, Pierre-Étienne Roana, qui a rejoint le cabinet pour travailler pour des acteurs comme l'UNESCO, comme l'ADEME, l'Agence de l'Environnement en France, comme l'ONU, mais aussi HP, pour réfléchir avec eux à des programmes de recyclage des équipements électroniques, les fameux déchets d'équipements électriques et électroniques. Et donc, c'est vraiment en 2007-2008 que...
C'était quand même assez, entre guillemets, précurseur, finalement.
C'était assez précurseur, même si c'était naturel pour nous. On était ingénieurs, on était un peu dans la techno, et on voulait surtout utiliser aussi la technologie, donc les logiciels, les sites internet, etc., pour aider les gens à revendre leurs produits facilement. Et à ce que à faire un peu le bon coin professionnel. C'était un peu la réflexion qu'on avait pour que rendre l'acte de je revends un produit usagé aussi facilement que j'achète un produit neuf. Et c'est ça de la vision qu'on avait, c'était lutter contre le gaspillage des ressources et aussi rendre accessible la technologie au plus grand nombre. Parce que derrière, il y avait la réflexion de se dire tout le monde ne peut pas s'équiper d'un téléphone neuf, d'un ordinateur neuf, et le produit d'occasion est une bonne manière pour faire de la solidarité ou permettre à des gens éloignés de la technologie pour y accéder. Ça, c'était en 2008-2009. Maintenant, il y a des produits moins chers en neuf qu'à l'époque. Mais ça reste cette vision-là qui nous anime d'être utile, d'avoir d'impact et de vouloir créer cette économie circulaire. Ça reste notre moteur de tous les jours, de se dire il y a à lutter contre ce réchauffement climatique et à participer à notre échelle. Quoi.
Par rapport à un back market qu'on a reçu dans l'empreinte, comment vous vous situez ?
Alors, Back Market, c'est un autre distributeur.
C'est ça, oui.
Nous, on est reconditionneur, on rachète les produits, ils nous appartiennent.
C'est vous qui les retapez, en fait.
Alors, nous, on va gérer la vie du produit. On passe par des artisans, des réparateurs, des techniciens, des logisticiens qui vont être des sous-traitants pour nous. Mais le produit nous appartient à toute la boue de la chaîne.
Okay.
Et nous, on va gérer l'actif, le service après-vente, la distribution, toute la vie du produit.
Mais par exemple, quand Back Market récupère lui-même un produit, c'est lui qui fait tout le reconditionnement, il passe par vous et ensuite il est remis sur leur... C'est un exemple, Back Market, mais ça peut être un autre.
Hein. Exact, c'est ça. Back Market, c'est une marketplace comme Amazon qui va mettre en relation des gens comme nous avec des clients particuliers.
Okay.
Et à chaque fois, il y a des acteurs, des reconditionneurs comme Recommerce. Et d'ailleurs, on a été le premier à vendre sur Back Market quand ils se sont lancés en 2014, l'équipe de Back Market. Et on les connaît bien.
Et est-ce que tout ce reconditionnement, j'imagine qu'il est quand même un peu carboné. Il n'est pas neutre en carbone. Est-ce que vous l'avez quantifié ou pas?
C'est à peu près 9 kilos de CO2 émis pour reconditionner un smartphone.
Okay.
Entre l'achat des pièces détachées, qui pèsent le plus hein, quand vous changez une batterie
bien sûr.
Avec une batterie neuve.
C'est l'extraction de matière.
Ou
hein,
un écran, ça reste de l'extraction de matière. Mais au final, un produit neuf, c'est entre 50 et 100 kilos de CO2 émis pour fabriquer un neuf. Donc, vous arrivez à économiser, on dit la moyenne, c'est 50 kilos de CO2 évités quand vous achetez un produit reconditionné plutôt qu'un produit neuf. Donc, on est sur une activité à impact positif en termes de réchauffement climatique, très clairement. Et on pense que d'ailleurs, c'est le changement du paradigme de consommation, c'est-à-dire arrêter d'acheter du neuf, parce que le neuf, la fabrication du neuf, c'est 80% de notre impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Si on arrêtait d'acheter du neuf, on arrêterait la ponction de matières premières, on arrêterait le transport et ça changerait très clairement le réchauffement climatique.
Mais surtout qu'au niveau de l'usage, moi je le vois même quand je cherchais des choses à remplacer, pourtant je remplace vraiment très peu mes appareils électroniques. Tout de suite, je vais sur du reconditionné, même pour le prix, c'est plus avantageux. Mais quand tu reçois le modèle, mais tu as l'impression que c'est neuf en fait. Enfin, c'est psychologique, tu penses encore, ce besoin d'acheter du neuf? C'est quoi? Enfin, qu'est-ce qui fait que les gens aujourd'hui, alors qu'il y a tout qui est... En tout cas, c'est tout bénef. Enfin, t'as tout, clé en main, moins cher, c'est juste reconditionné.
Il y a la fiabilité qui reste encore un sujet. C'est-à-dire qu'entre, sur des marketplaces, des fois, c'est un peu la pochette surprise. Tu peux acheter un produit qui est moins cher, mais tu ne sais pas à qui tu l'achètes et tu as des taux de SAV, tu as des risques que le produit a été mal reconditionné, mal réparé, tu as des risques qu'il ne soit pas en bon état. Le neuf, ton constructeur te le garantit, il y a des ingénieurs, il y a un service qualité irréprochable puisque tu as un acteur en face de toi. Là, quand tu passes par une marketplace, principalement, tu ne sais pas exactement à qui tu achètes le produit. Tu ne connais pas la société, il y a peu de contrôle encore sur ce marché. Donc, ça reste encore la pochette surprise d'acheter du reconditionné.
Et comment, toi, tu peux faire pour assurer? Tu as un label pour assurer la qualité de ton reconditionné, justement?
Ça, c'est notre métier qu'on a développé depuis 14 ans. C'est le contrôle qualité, le contrôle qualité. Donc oui, on est certifié ISO 9001, 14001, on a des équipes, on a 150 salariés, on fait 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en commerce, nous, notre métier, c'est ça, c'est de s'assurer qu'on va fournir un produit de qualité au meilleur prix. Et des fois, le meilleur prix, il doit être un peu plus cher que le plus bas prix pour avoir un écran de qualité, une batterie de qualité, avoir un service de un service client qui va vous répondre dans les 48 heures pour vous changer le produit, vous répondre à vos questions simplement si vous avez une question de comment on met une carte SIM dans son chariot. Et du coup, ça se paye. Ça se paye et donc le meilleur prix, c'est le service derrière. Mais l'enjeu, c'est être labellisé, donc certifié déjà, surtout par des organismes tiers indépendants, parce que c'est très facile et beaucoup d'acteurs le disent. Moi, je travaille très, très bien, j'ai réparé mon produit, c'est le plus beau produit du monde. C'est moi qui l'ai fait. Donc, vous avez
c'est
pas...
quand tu fais une étude, que tu commandites une étude et qu'après, tu t'en parles. Oui, c'est pas très objectif.
Exact. Donc, le plus important pour nous, c'est d'avoir des tiers de confiance, comme des organismes de certification qui viennent contrôler que tes process sont bien respectés. Nous-mêmes, on fait des contrôles qualité internes, de l'audit interne. On a nous-mêmes, justement, des cahiers des charges et des prestataires qui doivent répondre aux cahiers des charges. Et quand notre prestataire réparateur ne répond pas à ce cahier des charges, on change de prestataire quand c'est régulier et récurrent. Donc, il faut avoir une rigueur importante industrielle auprès de ces artisans, réparateurs, techniciens, parce qu'on est responsable de la qualité de la réparation, du reconditionnement. Et il faut l'assumer. Et nous, on l'assume complètement. C'est une marque Recommerce, produit Recommerce, service après-vente Recommerce. Et vous allez avoir une équipe de 6 personnes qui vont vous répondre au téléphone, qui sont soit gentils dans nos bureaux, soit basés à Dijon, soit basés dans différents endroits de France qui vont vous répondre.
Mais j'ai été vous voir. Hein. Je crois que c'est à Gentilly, du coup. Hein. J'adore vos bureaux, ils sont incroyables. Alors, c'est quoi finalement, toi, tes perspectives de développement? Parce que tu es quand même sur un sujet qui est comme... de la tech, on va en avoir toujours besoin. C'est typiquement, on doit faire du green IT, au-delà de la tech for good. Et toi, tu es dans le green IT, typiquement. C'est quoi tes perspectives de développement? Je pense que ça va être exponentiel, j'imagine, non? Globalement, c'est pas exponentiel, c'est un peu la fin du monde aussi. Donc, il faudrait que ce soit un peu exponentiel.
Ça l'est, il y a tellement de besoins. Ouais. Là, on est en train de se déployer sur d'autres produits. On est en train de fournir un logiciel via CircularX, une filiale qu'on a co-créée, pour fournir des solutions à n'importe quel commerçant pour racheter des produits reconditionnés et revendre des produits reconditionnés. Pour se dire qu'un commerçant doit changer de métier, doit créer une activité régénératrice, et plus destructrice, et doit changer de métier et changer de vision du service rendu à son client. Mmh. Et pour nous, n'importe quel commerçant comme Decathlon, par exemple, qui travaille avec nous, est en train de changer et a des rayons, en chaque Decathlon, des rayons d'occasion, va vous racheter votre vélo, va vous racheter vos chaussures de marche grâce à CircularX, à notre solution, et on va vous revendre une chaussure de marche réparée ou reconditionnée, garantie, un sac à dos, des vélos. Donc ça, c'est le futur. C'est-à-dire que c'est chaque commerçant, comme l'automobile l'a fait, et le fait très bien. Maintenant, il n'y a plus un concessionnaire automobile qui ne propose pas de racheter votre ancienne voiture ou de vous vendre une voiture d'occasion reconditionnée. Et ça va être la même chose pour tous les commerçants. Donc notre vision, elle est là. Pour ça, il faut s'équiper en logiciel, en modèle économique, en stratégie, et puis surtout rassurer les consommateurs sur des normes de qualité pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise et donc faire que le marché se structure dans un cadre normatif, réglementaire, où chacun respecte des règles rassurantes.
Est-ce qu'il y a beaucoup de... J'aime pas parler de concurrence sur le secteur parce que vous n'êtes pas concurrent. Il faudrait qu'il y ait plus d'acteurs justement engagés. Mais est-ce que tu vois émerger davantage d'acteurs, on va dire, sur le secteur ?
Oui, beaucoup d'acteurs cherchent à se positionner sur ce secteur-là, surtout des acteurs étrangers qui ont eux-mêmes des marchés conséquents ou qui savent faire la réparation ou qui produisent du neuf. On pense à la Chine, à des marchés, les Chinois, hein, vendent beaucoup sur les marketplaces. Ils sont d'ailleurs les principaux vendeurs avec des risques importants puisque peu de traçabilité, des comportements à risque avec des pièces détachées qu'on ne maîtrise pas.
Puis même là, nous, on n'a pas de DSAV. Si on prend un truc chinois, on n'a aucun suivi de notre modèle, contrairement à...
Exact. Maintenant, il y a de plus en plus de services proposés par des tiers, des tiers, hein, des intermédiaires, comme les marketplaces qui proposent de plus en plus ce service-là à des vendeurs. Donc, le risque, oui, c'est d'aller vers une ubérisation, enfin d'aller vers le bas en termes de proposition de valeur et qu'il y ait une concurrence qui tire vers le bas la qualité, qui tire vers le bas les prix pour prendre des parts de marché. Donc ça, c'est le vrai risque. S'il n'y a pas de barrière à l'entrée au niveau l'Union européenne, si on ne contrôle pas la qualité au niveau français des produits distribués et qu'on ne s'assure pas que tous les vendeurs en ligne, surtout, respectent la réglementation, payent bien la TVA en France, payent bien les redevances copie privée, les redevances éco-participation pour recycler. S'il n'y a pas ce contrôle-là, et c'est des sanctions liées à ça, il y a énormément de comportements de passagers clandestins. Et il y en a beaucoup. En France, il y avait une estimation par les échos, en e-commerce, je crois que c'est 80% des e-commerçants qui fraudaient régulièrement la TVA. Donc, dès que vous achetez un produit sur des marketplaces, vous pouvez être quasiment avoir beaucoup de doutes sur leur conformité réglementaire.
Bon, après, ce qu'il ne faut pas oublier de rappeler, c'est qu'au-delà de racheter du reconditionné, il faut quand même rester sobre. Parce qu'on voit quand même une multiplicité on n'a pas besoin de 12 smartphones, même s'ils sont reconditionnés, c'est bien, mais on reste quand même... Enfin, d'abord, c'est quand même la sobriété. Ensuite, la durabilité, comme le dit le GIEC. Et voilà, mais il faut quand même le rappeler, hein, parce que je trouve qu'on est quand même, c'est un peu le combat, cette schizophrénie un peu actuelle de oui, je veux bien faire, mais alors du coup, mais même moi, ça m'arrive. Et là, je me raisonne parce que je sais que pour animer les prestages, j'aimerais bien avoir j'aimerais bien avoir une tablette, une liseuse. Mais en fait, je m'en sors sans. Donc pour le moment, j'ai pas franc. Oui, mais tu vois, ce serait du confort. Et parfois, tu te dis, bon, clairement, confort ou pas. Et c'est pas une question de prix, parce que je pourrais me la payer cette tablette. Mais tu vois, parfois, et donc, j'ai pas encore sauté le pas. Mais tu vois, c'est des multiplicités. En fait, maintenant, on a toujours quelque chose qui va répondre à un besoin. On a toujours. Enfin, et même, moi, je vois, et puisque même en me baladant, du coup, sur les sites de reconditionner, il y a plein de trucs auxquels on n'aurait même pas pensé. Tu penses pas qu'il faut quand même rééduquer le consommateur, d'abord ?
L'économie circulaire, c'est une philosophie, c'est un engagement de se dire, voilà, on essaye d'être le moins impactant sur l'environnement. Donc, revendre ces équipements qu'on n'utilise pas, ça doit devenir normal. Ça ne l'est pas parce qu'il n'y a pas les services en face,
contraintes. Moi, c'est compliqué. J'ai voulu revendre des trucs, mais ça prend... Enfin, c'est... Je ne sais pas comment quelqu'un de lambda peut le faire, entre guillemets, peut le faire.
C'est pour ça que, oui, la sobriété, mais je suis contre la culpabilité.
Ah oui, non,
ça ne sert à rien de tomber dans se dire... Ah,
entièrement d'accord.
Tu vois, il faut que ça soit la sobriété, mais au niveau macro, au niveau politique, et qu'on se donne les moyens de cette politique de sobriété dont tu parles, qui est très juste, à une échelle d'abord et avant tout nationale ou structurelle, même européenne, avec des propositions de valeur, comme des sociétés peuvent les proposer, mais comme des gouvernements ou des collectivités ou des associations peuvent proposer des solutions pour que le citoyen engagé, le consommateur engagé, puisse facilement entrer dans cette sobriété. Mais c'est, moi, je suis outré de se dire, ah ouais, éteignez votre box, ça ira mieux en consommation électrique. C'est pas ça l'enjeu de l'énergie actuellement. L'enjeu, c'est comment on réduit, comme tu dis, les transports à l'échelle nationale, comment on fait changer les lois pour que ça soit plus simple de rester chez soi en télétravaillant et d'avoir plus de moyens pour télétravailler.
Tu me parles de lois, c'est hyper intéressant. Il y a de plus en plus de lois qui vont dans votre sens.
Elle va dans notre sens parce qu'on se bat pour.
Ah ouais,
moi, en tant qu'entrepreneur, je ne sais pas raconter ça, mais on a créé Recommerce parce qu'il y avait la loi en 2006 qui était passée au niveau de l'Union européenne, la directive 2006-824, ouais, qui imposait tout metteur sur le marché de reprendre le produit usagé. Donc en 2006, quand j'ai vu que cette loi allait passer au niveau européen et allait être transposée en droit français, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, là, c'est la logique et on doit proposer des services pour rendre simple, quand tu vends un produit neuf, de reprendre l'ancien produit de son client. Et c'est entré dans la loi. Et depuis cette constatation-là qui nous a permis de devenir Recommerce, moi, je reste secrétaire général de Recommerce Group, du groupe, et je travaille à aller au-delà de la réglementation pour que nous, Recommerce, on puisse montrer aux législateurs, oui, c'est possible d'aller au-delà et de penser une réglementation qui crée des barrières à l'entrée, qui rassure le consommateur, qui incite et qui invite, voire qui contraint les metteurs sur le marché, les producteurs de l'économie linéaire, à rentrer dans l'économie circulaire. Et si tu n'imposes pas de changer de modèle économique à quelqu'un, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. T'as potentiellement une vache à lait, c'est-à-dire un modèle récurrent. Pourquoi tu changes de modèle économique ? Parce qu'on t'a dit, ok, je fais peut-être... voilà. Donc, si tu l'imposes pas, tu fais pas changer les règles. Voilà. Et ça, c'est pareil. Moi, je suis très militant personnellement, dans plein de mouvements. J'ai toujours été militant, perso. Mais je me rends compte que c'est pas tant par le déplacement des individus que tant par du lobbying bien situé, avec des obligations légales, que l'on fait changer les choses. Donc, d'où le travail des parlementaires qui est extrêmement important au niveau européen et français. Et là, oui, tu as raison. Les lois qui sont passées récemment, qui vont encore passer au niveau européen, et il faut encore aller vers des barrières à l'entrée. Il faut aller encore vers des normes de qualité pour dire un produit qui n'a pas été contrôlé, qui ne respecte pas la réglementation en France, ne peut pas être vendu en France. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Mmh. Actuellement, on pouvait acheter un produit qui a un smartphone reconditionné, qui n'a pas payé de TVA en France, qui n'a pas payé de redevance copie privée pour les artistes pour financer tout le contenu artistique, qui n'a pas payé de taxes pour payer le recyclage. Et ça, c'est presque 80% des volumes que tu vas trouver sans ça. Et qui va contrôler ? Qui va sanctionner ? Eh bien, nous, on galère parce qu'on paye. Alors nous, nos marges sont plus faibles que ceux qui ne payent pas de taxes.
C'est normal.
Et du coup, on est toujours challengé. Mais nous, on considère qu'on peut le faire et qu'il faut que tout le monde s'y mette et respecte la loi en France.
Et se battre, oui. Parce qu'en fait, finalement, vous êtes beaucoup à vous battre pour ça ou pas suffisamment.
Ah non, quand on regarde là, qui se tape, entre guillemets, les commissions interfilières REP sur du temps bénévole pour aller sensibiliser les ministères, etc. Qui va rencontrer... Eh ben, on n'est pas nombreux. Et quand on demande à nos confrères, venez, on se rassemble dans la fédération que je préside, la fédération R-Cube, venez, on se rassemble ensemble et on va travailler. Moi, je me suis retrouvé plein de fois. C'est comme ça que je me suis retrouvé président. alors qu'à la base, mais c'est juste parce que je suis convaincu que c'est en étant plusieurs et en bougeant les lignes qu'on peut développer une nouvelle économie.
Mais de toute façon, je te rejoins entièrement. Sans législation, sans réglementation, aucun secteur ne pourra, aucun secteur de l'économie circulaire ou autre économie durable ne pourra émerger, puisque le business, c'est toujours le business qui est tiré. Donc, si le business devient vert et vertueux parce qu'il est réglementé dans ce sens, tant mieux. D'ailleurs, si les gens arrivent à faire des bénéfices en se verdissant, mais on s'en fiche, tant mieux. Mmh. Le but, c'est de sauver la planète quand même. Donc,
c'est ça, mais on pourra le faire que si on s'abstreint, il y a des contraintes fortes que tout le monde doit respecter avec des sanctions et des contrôles avec des mêmes normes. Sinon, on va aller vers le moins 10 ans, le pire 10 ans même, et on va continuer à consommer des ressources juste pour essayer d'avoir le prix le plus bas et d'avoir la plus grande part de marché, quoi, qui est l'économie capitaliste néolibérale qu'il faut arrêter, très clairement. Et il faut passer sur une économie régénératrice, une économie circulaire, qui repense notre relation à l'objet, à la matière première, à notre impact climatique et à notre bilan carbone personnel et collectif, et surtout collectif.
C'est quoi tes perspectives, là, les next steps ?
Alors, il y en a pas mal. Hein. Next step, là, on veut déployer notre solution multiproduit. Donc là, on est en train de racheter des vélos, des machines à laver, déployer des solutions de qualité pour reconditionner ces équipements. Donc ça, c'est la première.
Et toutes, par contre, vélos électriques.
Vélos électriques et d'autres types
et
de vélos.
Ah,
ouais,
okay.
Trottinettes.
Okay.
Donc voilà, il n'y a pas que... que le vélo électrique, même si c'est là où il y a de la valeur, surtout. Mais, et puis, il n'y a pas encore beaucoup d'offres structurées. L'autre step, c'est le déploiement européen, puisqu'on est en France.
Ça allait être ma question, ouais.
Nos concurrents sont quand même des Américains, des Chinois. Donc, il faut avoir une taille critique pour faire face à cette concurrence. Donc là, on est en plein déploiement européen. J'étais en Irlande la semaine dernière et on a déployé Vodafone Irlande, où maintenant les Irlandais peuvent revendre leur téléphone dans les boutiques Vodafone, comme en Allemagne. Et ça, c'est une belle étape pour notre société d'avoir une vraie échelle européenne. Ça va être un gros challenge quand même, multilingue. On a une vingtaine de bureaux dans différents pays. Donc, il faut qu'on gère l'intégration interne. Ça reste le troisième challenge, je pense. C'est maintenir ces valeurs, maintenir notre dynamique collective, parce que c'est l'énergie de chaque collaborateur qui va faire que notre produit est bon, qu'on reste, reste engagé, on reste sur des produits de qualité. C'est les hommes et les femmes qui font le service et les produits reconditionnés. Hein. C'est pas la magie d'Internet. Et puis, le quatrième challenge, c'est justement cet enjeu réglementaire de faire respecter la réglementation en Europe pour éviter la concurrence sauvage et déloyale que l'on voit déjà depuis un certain temps et qui, j'espère, qu'on va arriver à mettre fin grâce à plus de barrières à l'entrée, plus de contrôles, plus de sanctions pour aller vers de la valorisation des acteurs mieux-disants.
Et est-ce que tu penses que certains de nos auditeurs pourraient t'aider en ce sens ? Justement, est-ce que ce ne serait pas l'occasion d'appeler ? Je ne sais pas si tu as des choses à faire signer ou... Enfin, n'hésite pas, hein, parce que je pense que ça ne tombe pas dans l'oreille de sourd.
Non. Les médias sont tellement importants dans cette étape-là de changer les mentalités que oui, bien sûr, ton podcast a énormément d'influence. Les messages que j'aimerais faire passer, c'est un, luttons contre l'augmentation du coût de la réparation. Essayons d'arrêter les taxes sur la redevance copie privée. Essayons de lutter contre une augmentation de la TVA sur nos produits. Essayons de rendre accessible au plus grand nombre la réparation. Là, c'est aberrant de se dire que des fois, réparer un produit coûte plus cher que d'acheter un neuf.
Comme de prendre le train au lieu de l'avion. T'inquiète pas, c'est pas pour faire une...
Donc, du coup, moi, j'inviterais tout le monde, à tous ceux qui ont des idées, à favoriser la réparation plutôt que le neuf, à rejoindre la fédération AirCube, à adhérer à cette association-là, à venir nous rejoindre dans notre groupe de travail, participer au séminaire, à participer au programme du Reuse Lab. On lance un programme d'incubation pour incuber une dizaine de projets. Et donc, s'il y a des coachs qui ont envie d'accompagner des porteurs de projets, des gens qui ont envie de participer à cette dynamique collective pour changer les règles, rejoignez aircube.org, R-C-U-B-E.org, merci. et puis, c'est une association ouverte à tous les passionnés de réemploi, reconditionnement, réutilisation et réparation.
J'ai une toute dernière question parce que comment est-ce que, là je te la pose vraiment from scratch, comment est-ce qu'on pourrait faire pour faciliter le renvoi de ces smartphones ? Parce qu'en vrai, là je te pose une question pour moi, à la limite c'est perso, j'aimerais faire ça facilement, mais comment on peut faire ? Parce que c'est trop galère en fait vraiment à faire.
Alors nous notre vision c'est pour retourner voir son distributeur.
Ah, mais tu te rappelles plus où
Notre leitmotiv, c'est ouais, tout commerçant fait, ce de serait... devenir un recommerçant. Nous, on aide, chez Recommerce, on aide les commerçants à devenir des recommerçants. Donc,
d'accord.
Tu vas voir n'importe quel commerçant de téléphone, tu lui ramènes ton ancien téléphone, il te le reprendra, normalement.
Okay.
Et s'il ne le fait pas, tu me contactes et là, on va faire changer les choses.
Okay. Et là, on va leur péter les gueules.
Dans la loi, il a l'obligation de le reprendre. Okay.
Ah.
Depuis 2006, avec la loi, la directive cadre des 3E. Et en France aussi, et sur tout type de produits.
Okay.
Donc, c'est ce qu'on appelle les REP.
Comme ça, c'est plus simple.
Élargie producteur.
Limite, c'est plus simple ça que de leur envoyer à Péta ou Schnack, tu vois. Donc, je préfère.
Physiquement, quand
ouais.
tu vas faire des courses, tu vas voir un des vendeurs de produits, pas exactement le même, en fait.
Non, mais c'est même marque, j'ai compris, ouais.
Voilà, même distributeur.
Même
donc, un téléphone, tu vas voir un opérateur télécom, il te le reprendra. Après, il y en a qui vont te le reprendre plus ou moins cher, d'autres qui vont te le reprendre à zéro.
Qui vont me faire payer pour leur prendre.
Non, qui vont te payer
le
produit.
Ah, je dis non, mais attends, si, en plus...
Ils vont t'acheter le produit. Nous, c'est notre métier.
Bien sûr.
Parce qu'ils travaillent avec nous potentiellement. Ils vont proposer un Argus du jour.
J'ai cru que tu allais dire qu'en plus, j'allais payer le fait d'en ramener.
Il y a sur certains petits produits, des produits polluants, dangereux, où on va te demander potentiellement de payer. À une époque, c'était ça. Maintenant,
Non, parce que si tu le gardes chez... Enfin, c'est quand même aberrant. Tu fais t'as la bonne volonté de le ramener et on te fait payer.
Actuellement, on a eu le cas plusieurs fois des personnes âgées, surtout, qui sont au troisième, quatrième étage, qui voudraient changer de frigo, changer le congélateur, changer...
La reprise de trucs encombrants, d'accord,
je comprends. C'est pas si simple, gérer la logistique, ça a un coût, la logistique, ça a un coût, et donc les fournisseurs, les prestataires, etc. vont te dire, ah bah oui, mais là, moi, je vais perdre de l'argent, ça coûte 50 euros si tu veux que je vienne chez toi débarrasser.
Donc, là, je comprends. Non, mais là, je comprends sur le côté encombrant. Mais je parlais plutôt, tu sais, des petits trucs que tu peux garder, en fait.
Non, bah après, tu peux aller en déchetterie. Ouais. Toutes les déchetteries sont équipées. Tu peux aller en boutique. Tu peux aller à des associations, donner à des ressourceries, donner à des associations comme Emmaüs ou autres. Tu peux revendre sur Internet le bon coin. Tu peux donner à tes voisins, à ta famille, à Noël, au pied du sapin, avec un beau paquet cadeau, s'il marche encore.
Le truc pété, plaisir. Tu sais. En fait, je ne savais pas quoi en faire.
Tu peux apprendre à réparer, à faire du repair café pour apprendre à réparer. Tu peux trouver des gens autour de toi qui auraient envie de réparer et faire un atelier un week-end, réparation d'un
stage. J'ai plein d'idées.
Donc,
je vais tenter un truc avec. Bon, j'ai pas 36 000 trucs à redonner, mais c'est vrai que je voulais le faire. Et quand j'ai vu le process de renvoi du truc, j'ai fait OK. Au lieu de le faire tout de suite, ça m'a. Et du coup, je l'ai pas fait, tu vois.
Voilà, tu vas dans une boutique ou tu sur le bon coin. Voilà, après, ça a des avantages et des inconvénients. Mais le plus simple, c'est d'aller voir ton distributeur.
Ouais.
Ou la déchetterie.
Non, mais c'est bien. Comme ça, ça informe aussi les auditeurs qui se posaient la question. Est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose?
Oui, on peut rajouter qu'il faut rester engagé, croire que le réchauffement climatique, on peut l'inverser en changeant nos pratiques individuelles, mais surtout collectives, et de croire que collectivement, on peut faire changer les règles via surtout la réglementation, via surtout des engagements, que ce soit politiques ou entrepreneuriaux, et l'innovation. Moi, je crois beaucoup en l'innovation pour démontrer que c'est possible et que ça a beaucoup d'influence de dire « regardez, c'est faisable en fait ». Et donc, plus on va faire ensemble concrètement des choses comme ça, tester de réparer, tester de revendre, tester de donner, ça permet de démontrer que c'est faisable et soi-même, ça nous rassure dans nos capacités à changer les choses et à pas accepter comme les choses comme elles sont, comme elles, surtout, elles ne devraient pas être. Voilà, un produit usagé ne doit pas rester dans un tiroir, ne doit pas rester dans un placard. Il doit permettre à quelqu'un d'autre de l'utiliser. Voilà. C'est un principe de bon sens paysan qu'on a oublié un peu trop parce qu'on est tous happés par le quotidien, mais il faut se battre pour changer les choses pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour les autres générations à venir et les familles ou les cultures qui n'ont pas les moyens aussi de se battre, alors que nous, on a les moyens. On a les moyens économiques, intellectuels, réglementaires pour dire, voilà, en France, on arrête le gaspillage et on arrête d'acheter du neuf, on arrête de stocker des produits usagés dans les tiroirs et on se donne les moyens de faire fonctionner une nouvelle économie plus régénératrice et plus circulaire.
Parce que chaque geste compte. Et merci pour cette super idée de cadeau de Noël. Refilez vos vieux trucs et emballez-les, c'est parfait. Merci beaucoup, Benoît.
De rien, Lise.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.